25 septembre, c'est aujourd'hui la journée internationale du tourisme. Écho d'économie de ce soir vous amène dans le nord-est du Kivu, deux provinces réputées touristiques de la RDC. À cette occasion, le ministre congolais du tourisme, Elvis Moutiri, a souligné la nécessité de mobiliser les entreprises et les opérateurs touristiques pour soutenir ces secteurs au pays. Dans ce magazine, nous rendrons aussi en Ituri où le ministre provincial des hydrocarbures sensibilise les importateurs de produits pétroliers de Bounia au paiement de taxes pour la construction de cette nouvelle province. Bonsoir. Journée internationale du tourisme, c'est aujourd'hui 27 septembre. Le thème choisi cette année, c'est promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Au sud Kivu, cette journée a été célébrée dans la méditation. Plusieurs habitants de cette province fustigent le manque de volonté politique dans le développement du secteur touristique, surtout dans une province riche. Alors, quel est l'état des lieux du tourisme dans cette province montagneuse de la RDC? Des éléments de réponse avec le chef de division du tourisme, Monsieur Nestor Mouzezo, au micro de Kadir Zouba.
Le bilan est mitigé parce que faut avouer qu'il y a certains qui pensent que les choses ne marchent pas normalement, mais à notre entendement, nous savons que nous sommes en train d'évoluer. Et nous n'avons pas seulement jusque-là atteint le niveau voulu. Parce que, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, les choses évoluent très bien. Nous étions, il y a près de 10 ans, à moins de 30 hôtels, mais aujourd'hui, nous sommes à 105 pour être précis. Et sur l'ensemble de la province, nous avons autour de 235 ou 36 hôtels, si je ne me trompe pas. Au-delà de ça, il faut aussi avouer que le gouvernement de la République a pris en train de nous dire notre ministère a été retenu parmi les 9 ministères stratégiques. Notre ministre des tutelles a signé à peu près 4 accords, notamment avec le Burundi, avec le Rwanda, avec la Russie sud-africaine, pour faciliter à tous ces gens qui viennent visiter par exemple le parc de chez les voisins au Rwanda, qui viennent directement au Congo. Il y a aussi ce que nous avons appelé le tourisme scolaire, c'est-à-dire dans les soucis de faire découvrir aux enfants les potentiels, les richesses, non seulement aux enfants, mais même à la population congolaise tout entière. Tout ce que nous disposons comme ressources, ce qui fait que désormais, il sera question à chaque instant de prendre les enfants, les amener dans les sites touristiques de la province. Et comme c'est un processus aussi, l'évolution d'un secteur, je crois que dans les jours à venir, les choses pourront marcher.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de sites touristiques du sud qui vous êtes?
Il faut vous dire que pour le moment, en termes de chiffres aussi, nous avons les sites qui sont inventoriés, connus par l'administration du tourisme ici. Nous avons 108 sites touristiques reconnus. Mais le problème, c'est que ces sites-là, pour la plupart, il y en a qui sont au fond fin dans des territoires. Mais le plus important, parce que vous voulez un exemple, c'est par exemple le parc national de Kahuzi-Biega, que nous connaissons tous. Nous avons le lac Kivu ici, que nous n'exploitons pas totalement. Il y a le lac Tanganyika, il y a des eaux thermales, la presqu'île Boubouari et bien d'autres. Mais le problème aussi, c'est que nous avons constaté que la population ne maîtrise pas parfaitement ce qu'on entend par tourisme. Il y en a qui croient qu'un touriste, c'est quelqu'un qui vient seulement de l'Europe, qui vient de la Amérique qui vient d'un seul jour. Alors ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent d'abord, touriste, c'est qu'on peut être touriste dans son pays. Il y a des touristes internationaux, il y a des touristes nationaux, il y a des touristes locaux.
Alors qui vous, le gouvernement provincial sensibilise la population à s'adonner aux activités touristiques. De prix préférentiels sont même proposés aux Congolais pour le motiver. Côté étranger, la directrice du tourisme du parc national de Virunga indique qu'en 2015, près de 4000 touristes ont visité ce site du patrimoine mondial. Le défi sécuritaire reste cependant un frein à ce secteur en expansion. Rosalie Zawadi nous en parle.
Au Nord Kivu, les parcs nationaux des Virunga restent les sites qui attirent beaucoup de touristes. Avec ses volcans et ses gorilles, il enregistre des visiteurs du monde entier, comme l'explique Madame Julie William, sa directrice.
Cette année, le nombre de touristes vient d'augmenter, c'est-à-dire que le tourisme se porte bien au niveau du parc des Virunga. Beaucoup viennent pour voir les Nyiragongo, les gorilles et d'autres aux loges du camp Virunga. Ils aiment beaucoup les volcans et les gorilles.
Ces touristes étrangers déboursent chacun $300 américains pour visiter les volcans Nyiragongo et $400 pour voir les gorilles. Les adultes congolais payent pour les volcans $90 et $25 pour les mineurs. Une manière de promouvoir les touristes pour tous, comme le dit le ministre provincial des tutelles, Balthazar Kanyamanza.
Par même nos moyens limités, nous pouvons également nous atteler à cette activité pour le bien-être psychique et physique de nos populations.
Notons qu'au-delà du parc, les Nord-Kivu comptent beaucoup d'autres sites touristiques comme les superbes îles du lac Kivu ou les lacs verts près de Goma. Rosalie Zawadi, Goma, Radio Okapi.
Et puis le tourisme contribue des 0,7% au produit intérieur brut de la RDC. C'est une contribution jugée faible au regard de plusieurs sites touristiques que compte le pays. Plusieurs défis doivent être relevés pour booster ce secteur. Le ministre du Tourisme a souligné la nécessité de mobiliser les entreprises et les opérateurs touristiques pour soutenir ce secteur. Il l'a dit dans un point de presse organisé ce mardi à son cabinet. Le détail avec Nadine Foulansimba.
Dès nos jours, le tourisme est devenu une véritable industrie incontestable de développement économique et de stabilité sociale. Selon le rapport 2015 de l'Organisation mondiale du tourisme, a évoqué le ministre, les arrivées des touristes internationaux à travers le monde ont atteint une fréquentation de plus d'un milliard de visites par rapport à 2014, soit une augmentation de 4,6% en 2015. Cependant, en RDC, ces secteurs ne contribuent qu'à 0,7% au PIB du pays. Plusieurs défis expliquent cette situation et Elvis Moutiri, ministre du Tourisme, se veut rassurant quant aux résultats des efforts déjà fournis. Il revient ici sur ces défis.
La contribution du tourisme jusqu'à l'année passée était de 0,7%, alors que des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Ouganda, qui sont sur le même massif de Virunga, qui exploitent le même parc national du Virunga, le Rwanda fait une contribution à son PIB de l'ordre de 600 millions de dollars. Nous avons un chemin à faire. Ça passe par la formation du personnel donc de l'administration. Ça passe par la formation des opérateurs du tourisme. Il faut relever les défis du visa, qui est un défi extrêmement important, parce que les défis et les visas que nous avons sont les visas les plus chers presque du monde.
Écho d'économie.
Je le disais également au sommaire, le ministre provincial des hydrocarbures de l'Outaouais a rencontré le samedi les importateurs des produits pétroliers de Bounia, de Ogracias à Umbalia, les a sensibilisés au paiement des taxes pour construire cette jeune province. Il les a également appelés à éviter la fraude douanière dont certains sont accusés par la DGDA. Suivons l'entretien qu'il a eu à ce sujet lundi avec Isaac Raymond.
S'il était question de rappeler sur leur devoir vis-à-vis de l'État.
Concrètement, qu'est-ce que Blair avait dit? Est-ce que c'était aussi une sorte de sensibilisation pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'État?
Moi, je leur ai dit ceci. Si réellement nous sommes des Congolais qui aimons notre pays, nous devons accompagner le gouvernement dans ses actions en rapport avec le développement. S'ils sont vraiment conscients et ils aiment l'Ituri, pour que la province de l'Ituri décolle, il faudrait que eux aussi puissent accomplir leurs devoirs vis-à-vis de la province. C'est avec leur contribution que la province aura la possibilité d'arranger des routes, la province aura la possibilité d'arranger des ponts. Ne pas vouloir payer, c'est aussi vouloir donc mettre en difficulté la province.
Est-ce que vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'opérateurs pétroliers qui s'impliquent dans la fraude ou ce qui a justifié votre démarche?
Mais évidemment, il y en a qui le font et nous ne pouvons pas les citer publiquement. Nous auront le temps de nous entretenir avec eux pour leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de causer comme préjudice pour le bon fonctionnement de notre gouvernement provincial, pourquoi pas le gouvernement de la République.
Il y a certains opérateurs économiques qui traitent avec des hommes d'affaires ou des politiciens et qui obtiennent des fausses exonérations et par conséquent, cela fait à ce qu'il y ait une concurrence déloyale sur le marché. Est-ce qu'ils ont aussi relevé cette difficulté?
C'est une réunion, mais si on veut le dire, on ne peut pas le dire ouvertement. Là, il faudrait peut-être un cadre bien précis. Ils ont parlé, mais sans toutefois parler clairement. Moi, j'ai compris de ma manière. Je veux aussi agir en conséquence.
Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est ce qui peut aussi décourager certains opérateurs économiques à s'acquitter de leurs obligations.
Bon, actuellement, je suis dans la phase de sensibilisation. Ceux-là qui se sentent lésés ou ceux-là qui savent qu'ils sont dans cet aspect de travail qui ne cadre pas avec les textes légaux, ils ont le temps de me voir pour qu'on puisse lever une option et voir comment on peut respecter les textes qui réglementent le secteur de l'hydrocarbure.
Et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont formulé comme recommandation au gouvernement pour leur faciliter leur trafic, leur commerce?
Il n'y a pas eu tellement de recommandations. D'abord, ils ont apprécié le contenu de la réunion. Ensemble, nous avons souhaité qu'il y ait donc une rencontre régulière pour arriver à planifier certaines choses et s'il y a des difficultés, pour arriver à les surmonter ensemble.
Parce que parfois ils évoquent les problèmes des routes qui font assez qu'il y a beaucoup d'accidents. Est-ce que vous avez aussi répondu à leurs requêtes?
Mais évidemment, je leur ai fait connaître. Par exemple, on leur demande de payer les taxes. Et c'est avec cet argent des taxes que le gouvernement peut songer à arranger les routes. Par exemple, le Foner actuellement dit qu'il ne perçoit presque pas et il ne peut pas intervenir. Voilà, maintenant, ça devient un problème. Je leur ai fait même savoir si tout le monde ne paye pas les taxes. Et d'ici peu, les routes seront fermées. Par quel moyen vous allez trafiquer? Donc, si tout le monde travaillait la main dans la main et qu'on parvenait à mettre nos routes ici à très bon état, le commerce va très bien évoluer.
Par exemple, les taxes qui sont payées au niveau des Foner, selon le commerçant, il y a beaucoup de millions d'argent qui sont en train de payer, mais en contrepartie, il ne voit rien. Peut-être ces fonds aident plutôt à réhabiliter d'autres routes qu'en Ituri.
Bon, ça, je ne saurais le dire parce que nous venons d'abord de commencer avec le travail. Peut-être à la longue, nous allons découvrir si toutes ces allégations sont affirmées. Nous saurons comment nous pouvons donc régler la situation. Il ne sert à rien à refuser de payer les taxes parce qu'après tout, tout ce que nous payons au service de l'État, ça nous revient autrement. Donc si nous voulons que notre jeune province évolue et se développe, nous les fils et filles de la province de l'Ituri, nous devons contribuer, impôler le gouvernement à payer de toutes les taxes que les textes légaux nous exigent.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce magazine coordonné par Denis Tamizoni. Merci de nous avoir suivis.